VOA Afrique, les infos à Washington.
Ravi de vous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité de ce lundi 23 décembre 2019. Je suis Irénée Herman Rumbor en direct de Washington. Au Mali, fin hier du dialogue politique a mené à Bamako pour tenter de trouver une solution à la crise provoquée par les attaques djihadistes et dans laquelle s'enfonce le pays. Les participants membres de la société civile et de la classe politique réunis depuis le 14 décembre ont préconiser la tenue d'élections législatives avant mai 2020 et l'organisation d'un référendum sur une révision de la Constitution. Au Nigeria, une trentaine de djihadistes affiliés au groupe État islamique ont tué 6 personnes et ont enlevé 6 autres dimanche dans le nord-est du pays. Fin de la visite du président français en Afrique, Emmanuel Macron et son homologue nigérien Mahamadou Issifou ont donné hier le temps d'une mobilisation pour renforcer la lutte contre le djihadisme au Sahel. C'était au cours d'une cérémonie d'hommage aux 71 militaires nigériens tués par des djihadistes à Inates. M. Macron s'est incliné devant les tombes des soldats nigériens, moins d'un mois après s'être recueilli devant les cercueils des 13 soldats français tués au cours d'un accident d'hélicoptère au Mali en zone de combat. Emmanuel Macron a ensuite une nouvelle fois réclamé de la clarté au gouvernement sahélien sur la présence militaire française et la lutte contre le djihadisme en reprenant des propos qui avaient généré de la tension entre la France et ses partenaires. On l'écoute.
Le président Issoufou, comme le parti présidentiel, ont très clairement rappelé dans quel cadre la France intervenait. Celui d'une demande expresse de l'État nigérien et donc de celles et ceux qui portent la souveraineté du peuple nigérien et qui considèrent qu'ils ont besoin du soutien de la France, comme vient de le dire le président dans le cadre de l'opération Barkhane. J'attends la même clarté de tous les dirigeants. La même clarté. Je vois, en effet, dans trop de pays prospérer, sans condamnation politique claire, des sentiments anti-français. Je ne peux pas accepter d'envoyer nos soldats sur le terrain, dans des pays où cette demande n'est pas clairement assumée et où ils interviennent dans un cadre qui ne correspond pas à la dignité que nous leur devons. Dans ce contexte, soyons clairs, si l'opération Serval a eu un cadre juridique, politique extrêmement clair au moment de l'attaque assumée par l'État malien comme la CEDEAO, aujourd'hui l'opération Barkhane a une forme d'ambiguïté. Et donc il est nécessaire que les 5 États du Sahel clarifient politiquement, avec la France, le cadre politique de ce que nous conduisons militairement pour être beaucoup plus efficaces et lever toutes les ambiguïtés qui aujourd'hui prospèrent.
C'était à l'instant Emmanuel Macron, président de la France, lors de son passage à Niamey au Niger. Avant Niamey, le président Macron s'était également recueilli en hommage à des soldats tués, cette fois à Bouaké, deuxième ville de la Côte d'Ivoire et ancienne capitale de la rébellion. 9 soldats français et un Américain y avaient été tués en 2004 par un bombardement de l'armée ivoirienne. Un épisode charnière de la décennie de crise ivoirienne et un dossier qui garde de nombreuses zones d'ombre. Le président Macron et Ouattara ont dévoilé une stèle et déposé des gerbes aux couleurs ivoiriennes et françaises. En République démocratique du Congo, la fourniture d'eau va être interrompue pendant les fêtes de fin d'année à Kinshasa, faute de moyens financiers et matériels. C'est ce qu'a annoncé hier le syndicat de l'entreprise publique de distribution d'eau. Les précisions avec John Linden.
Nous demandons à la population quinoise dès la semaine prochaine de constituer des réserves d'eau car nous ne serons pas à mesure de leur assurer la fourniture d'eau pendant cette période des festivités de fin d'année, a déclaré Alain Sénengue, responsable de la délégation syndicale de la Régie des Eaux, dans un message audio distribué aux médias. Nous n'avons plus d'intrants de traitement d'eau. Nos machines tombent en panne du jour au lendemain et les salariés de la Régie des Eaux accusent 3 mois de retard de paiement de salaire, a expliqué M. Sénengue. Selon lui, le ministre des Finances refuse de libérer un montant de 5,4 millions de dollars de dettes de consommation d'eau par les institutions publiques qui pourraient permettre à l'entreprise de fonctionner. Mégapole d'environ 12 millions d'habitants, Kinshasa connaît souvent des problèmes d'approvisionnement en eau. Plusieurs quartiers ne sont pas reliés au réseau de distribution de la Régie des Eaux. Des habitants recourent à l'eau de pluie, de rivière ou de pluie pour l'usage quotidien.
Au Soudan, le gouvernement issu de la contestation qui a fait chuter en avril le régime d'Omar el-Béchir a annoncé dimanche étudier la possibilité de lever les subventions étatiques sur les carburants en vue d'équilibrer son budget. Lors d'une réunion de cabinet, il a annoncé la mise en place d'un petit comité pour étudier la levée de ces subventions sur l'essence et le diesel. La levée des subventions pourrait aider à maîtriser les dépenses publiques au risque d'attiser la colère d'une population épuisée par une économie exsangue. Dans un communiqué, le gouvernement précise bien qu'il n'y a aucune tendance à lever les subventions sur le pain dans le budget pour l'année 2020. En Libye, le chef de la diplomatie grecque, Nikos Dendias, a effectué hier un périple éclair en Méditerranée sur fond de tensions créées par la signature d'un accord maritime entre la Turquie et le gouvernement de Tripoli. Il s'est notamment rendu à Benghazi dans l'est du pays où il a rencontré le maréchal Khalifa Haftar, puis au Caire et à Chypre. Parallèlement, Athènes a annoncé que l'accord sur le gazoduc Ismied serait signé avec Chypre et Israël.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les Français qui veulent prendre le train pour le réveillon devront s'armer de patience. Les grévistes mobilisés contre la réforme controversée des retraites veulent maintenir la flamme pendant les fêtes, tandis que le gouvernement doit annoncer ce jour le calendrier des négociations. Seuls 40% des trains à grande vitesse et trains express régionaux circuleront, 20% des trains de banlieue et un quart des trains de moyenne distance. Dans la région parisienne, l'amélioration promise par l'exploitant des transports urbains RATP reste minime, avec toujours 6 lignes de métro sur 16 fermées, un fonctionnement normal seulement pour les 2 lignes automatisées et une circulation du réseau express régional RER cantonné aux heures de pointe. En Syrie, les forces du régime de Bachar al-Assad ont progressé à Idlib, province du nord-ouest du pays, majoritairement aux mains des djihadistes, après plusieurs jours de combats meurtriers et de bombardements dans lesquels 9 civils ont péri hier, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Du côté de la Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a averti l'Europe que son pays ne pouvait faire face à lui seul à un nouvel afflux de Syriens fuyant l'intensification des bombardements dans la province d'Idlib que le régime de Damas cherche à reprendre aux djihadistes. Des dizaines de milliers de personnes se sont dirigées vers la frontière avec la Turquie en raison du nombre croissant des frappes aériennes des forces gouvernementales syriennes et russes sur la région de Maret al-Numan dans le nord-ouest syrien depuis le 16 décembre. En Irak, les manifestants ont durci dimanche leur mouvement, décidé à mettre à bas le système tout entier. Ils rejettent en bloc les dirigeants politiques actuels qui se disputent le poste de Premier ministre. Les précisions avec Bagassi Koura.
Oui, en soirée, des épais nuages de fumée noire, des pneus brûlés pendant des semaines de violence en octobre et novembre s'élèvent de nouveau au-dessus de plusieurs villes du sud. Avec des pneus brûlés en travers d'autoroutes ou d'avenues des centres-villes, les manifestants disent leur colère et leur refus catégorique d'un homme. Le ministre démissionnaire de l'enseignement supérieur, Kousaï Al-Souhaïl, présenté comme le candidat de Téhéran pour le poste de premier ministre, alors que la rue menace de replonger dans la violence qui a déjà fait près de 460 morts et 25 000 blessés depuis le 1er octobre. Pour la troisième fois, le délai légal pour nommer un nouveau premier ministre a été dépassé. D'un côté, les pro-Iran alliés au chef du Parlement Mohamed Al-Alboussi font pression pour faire accepter leur candidat. De l'autre, le président de la République Barham Saleh gagne du temps en multipliant les demandes d'éclaircissement et la rue, elle, qui estime avoir déjà patienté 16 ans depuis l'installation du pouvoir actuel après la chute du dictateur Saddam Hussein, veut désormais tous les voir partir.
En soirée, les épais nuages de fumée noire, des pneus brûlés pendant des semaines de violence en octobre et novembre s'élèvent de nouveau au-dessus de plusieurs villes du sud avec des pneus brûlés en travers d'autoroutes ou d'avenues des centres-villes. Les manifestants disent leur colère et leur refus catégorique d'un homme. Le ministre démissionnaire de l'enseignement supérieur, Kousaï Al-Souhaïl, présenté. Voilà, ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas les prochains. prochain rendez-vous avec Henri Francisque. Quant à moi, je vous souhaite excellente suite de programme sur VOA Afrique et bonne journée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.